Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, Sahel et Ebola, le surf au service des crises émergentes et oubliées avec Allegra Bayoki. La chef du Bureau régional des affaires humanitaires pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre était récemment de passage à New York, l'occasion de la recevoir dans nos studios et d'apprendre comment son bureau a fait usage du Fonds central d'intervention humanitaire d'urgence des Nations Unies pour affronter les crises d'Ebola et du Sahel. Bonne écoute.
Le surf est devenu aujourd'hui un outil incontournable pour la réponse aux crises humanitaires. C'est un fonds qui cherche de redresser un peu les injustices de l'humanitaire. C'est un fonds très important, ça fait autour de 450 millions de dollars. Et le mandat du surf, c'est vraiment des différentes fenêtres de financement qui peuvent soutenir la réponse rapide à des crises, plus vite que ce que le bailleur de fonds pourrait faire. Les interventions sous-financées, donc tout ce qui est oublié dans le monde, qui peut-être est plus sur l'effet CNN ou l'effet des intérêts politiques. Et aussi, il y a une troisième façon, c'est des prêts. Donc, c'est des agences qui peut-être pourront plus tard avoir des fonds, mais qui ont besoin de fonds tout de suite. Donc, il y a aussi une partie prêt. Et c'est vraiment énorme le travail qui a été fait à travers le surf dans les années. Il y a plusieurs bailleurs de fonds. Les plus importants, c'est le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège, les Pays-Bas, le Canada.
Alors, vous êtes donc la chef du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Est-ce que votre bureau est appelé à faire usage de ces fonds ?
Absolument. Notre bureau est appelé par les équipes humanitaires. Donc, dans chaque pays, il y a un coordinateur humanitaire, un coordinateur résident. Et c'est vraiment à cette personne, avec son équipe, qui décide d'appeler, de demander de surf funds. Et OCHA, c'est seulement du soutien. Donc, on les aide à développer les requêtes et à mieux expliquer le besoin, préparer la documentation, etc., etc. Mais donc, une chose qui est très intéressante, c'est que vraiment, il y a un travail d'équipe. Donc, c'est des équipes pays qui s'assoient autour d'une table. Donc, ça aide vraiment dans la coordination aussi pour dire quels sont nos besoins les plus critiques et demandons ensemble de fonds. Donc, ça évite aussi tout ce type de compétition avec les différents bailleurs de fonds. C'est vraiment une requête qui est faite à niveau d'équipe humanitaire.
Alors, cette année, donc 2014, vous l'avez dit, il y avait plus de 450 millions de dollars qui ont été utilisés à travers le CERF, dont notamment une partie dans votre région avec l'arrivée de l'épidémie d'Ebola. Alors, comment est-ce que ça s'est déroulé en fait ? Comment est-ce que vous avez fait usage de ces fonds ?
Donc, ma région, cette année, a pu bénéficier du fonds CERF pour deux grandes crises. Absolument la crise Ebola et la crise Sahel. Et je pense que c'est intéressant pourquoi ce sont deux crises différentes. Et donc, ça peut vraiment marquer la versatilité du fonds. Donc, pour Ebola, bon, peut-être vous vous rappelez, la crise Ebola a commencé déjà en mars. Ça a commencé, au moins nous, à niveau régional, à niveau de Dakar, on était déjà au courant de cette crise en mars. Après, ça a pris beaucoup de temps pour que ça arrive à avoir vraiment l'effet CNN où tout le monde était au courant. Et donc, je pense que c'était vraiment grâce au surf où on a pu avoir les premiers financements. Donc, les équipes pays qui avaient quand même sonné un peu l'alarme, mais qui n'avaient pas vraiment reçu les intérêts des bailleurs de fonds, ont pu aller vers le surf et eux demander des aides d'urgence. Donc effectivement, il y a en total, le surf a donné plus de 15 millions de dollars pour la crise Ebola dans les différents pays affectés. Et donc ça a commencé tout de suite, le premier disbursement c'est en avril. Donc la crise était en mars et déjà en avril on a un premier disbursement pour la Guinée. Et après on a eu le Sierra Leone, le Libéria et le Nigeria. Et donc, je pense que vraiment, c'était les premiers fonds. Donc, à travers nos bureaux, les coordinateurs résidents, comme je le dis, cette équipe pays nous a approchés pour nous dire est-ce qu'on pourrait demander du surf. Tout de suite, le surf a accepté ces requêtes. Et ça a été vraiment une injection de fonds critiques pour que c'était un moment où les équipes n'étaient pas prêtes pour gérer une crise Ebola.
L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades. Ne touchons pas nos mourants. Tout le monde est en danger, les jeunes et les anciens. Il faut agir pour nos familles. Ebola,
Ebola. Alors justement, quel usage est-ce que ces équipes ont fait de ces fonds ? Quels étaient les besoins d'urgence qui n'avaient pas de financement à l'époque ?
Donc les financements ont privilégié tout ce qui était la santé, donc c'était des soutiens à l'OMS pour la réponse santé, et c'était aussi un soutien à l'UNICEF pour tout ce qui était la mobilisation sociale, le faire passer des messages, travailler avec les communautés pour expliquer Ebola et quelles sont les mesures à prendre. Donc le financement tout au début était dans ces deux interventions. On a aussi eu des financements à tout ce qui était logistique. Donc souvent le surf dans tous les pays, mais ça a été aussi le cas pour Ebola, soutient tout ce que sont les opérations logistiques. Donc de UNHAS, c'est un service, c'est du transport aérien soutenu par le PAM. Donc c'est UNHAS qui a vraiment été très important pour Ebola. Comme vous le savez, tous les pays ont fermé les frontières et presque toutes les compagnies aériennes ont arrêté leurs vols. Et donc sans ce soutien à UNHAS, on n'aurait pas eu la possibilité de transporter du matériel, mais aussi les humanitaires qui devaient intervenir. Donc je pense que dans ces trois volets de soutien médical, évidemment, mais la mobilisation sociale et surtout le soutien logistique ont été vraiment imprescindibles, comme je dis, pour la réponse Ebola. Et même maintenant, Ebola est à la une, donc on a eu beaucoup de financements qui sont arrivés maintenant. Mais donc c'est vraiment l'importance du surf, c'est être le premier et être avant tous les autres.
Maintenant, les fonds du surf par rapport à Ebola, on fait plus usage du surf. Maintenant, on fait recours en fait aux autres contributions.
Absolument. Je pense que pour le cas du Ebola, maintenant, grâce à la mobilisation mondiale, on a assez. On peut aussi très vite oublier et donc ça peut arriver que prochaine année, on aura encore des impacts de cette crise et on se trouvera peut-être sans les financements nécessaires. Mais pour le moment, je pense qu'on a reçu assez de financements.
Alors, vous avez mentionné la crise du Sahel, des crises sahéliennes qui sont un peu un contre-exemple d'Ebola par rapport à l'utilisation justement des fonds du surf.
Absolument. Pourquoi je pense que la crise Sahel dénote un autre type d'utilisation du surf. Donc, bon, la crise Sahel, ça continue depuis des années. Donc, on a eu beaucoup de soutien surf à travers des années.
Est-ce qu'on peut expliquer un peu à quoi on se réfère quand on parle de la crise du Sahel?
Donc la crise Sahel, je pense que peut-être a commencé 2011-2012 avec une crise alimentaire. Donc il y avait une sécheresse qui a forcé des millions de personnes de se retrouver en insécurité alimentaire. On parle encore aujourd'hui autour de 20 millions de personnes en insécurité alimentaire, 5 millions des enfants affectés par la malnutrition. Mais c'est quand même des crises chroniques et donc liées surtout à des effets climatiques qui reviennent chaque 2-3 ans et ces cycles deviennent de plus en plus courts. Donc c'était vraiment une crise qui s'empirait sous le niveau de pauvreté très bas, pour que le Sahel, c'est une région qui contient les pays plus pauvres de l'Afrique. Donc c'est vraiment la bande sahélienne qui commence de la côte Sénégal-Gambia et qui termine avec le Tchad. Donc nous, quand on parle de Sahel, on parle de 9 pays. Donc qui en 2011 ont tous été affectés par cette crise alimentaire. Mais la crise alimentaire, c'est compliqué avec des crises de sécurité. Donc en 2012, on a eu le Mali. Aujourd'hui, on a le Nigeria. Et donc, ça devient des crises chroniques à plusieurs niveaux, avec un aspect en sécurité alimentaire. Mais maintenant, on a plus de 3 millions de personnes réfugiées déplacées à cause des guerres. Et donc, c'est des crises très compliquées. Et là aussi, donc, le surf a joué un rôle très important. Tout au début, en 2011, c'était un des premiers mécanismes de financement de la crise. Donc tout au début, quand les agences ont commencé à alerter cette crise alimentaire, ça a pris du temps avec les bailleurs de fonds qui étaient toujours impliqués ailleurs. Et donc c'est le surf vraiment qui a pu verser les premiers financements et mettre en place une réponse vraiment d'urgence. Et le surf a aussi signalé un peu l'importance de la crise et c'est après le financement surf qu'on a vu vraiment l'intérêt des bailleurs de fonds. Et donc tout de suite, après le surf, donc on a eu avoir des financements plus importants des États-Unis, etc., etc. Mais vraiment, sans le surf, c'était vraiment des financements très importants, pas seulement pour une réponse précoce, mais aussi pour signaler aux bailleurs de fonds qu'il y a vraiment une crise. On avait vraiment besoin d'une réponse complexe. Deuxièmement, je pense qu'on a utilisé le surf au Sahel une fois que la crise est devenue une crise oubliée. Donc, vous savez, aujourd'hui, on est dans une situation globale caractérisée par plusieurs crises. énorme. On a la Syrie, on a le Sud-Soudan. Donc, il y a vraiment une compétition quelque part entre crises. Et malheureusement, des crises chroniques comme le Sahel sont celles à être oubliées le premier. Pourquoi ? C'est des crises qui reviennent chaque année, chaque deux années. Il y a un peu aussi de fatigue de la part de bailleurs de fonds qui se demandent vraiment où va notre argent. Quand est-ce qu'on va voir vraiment de changements ? Et donc, une fois la crise Sahel commençait à devenir un peu oubliée, là, de nouveau, le surf nous a aidés cette année spécifiquement avec une réponse de plus de 30 millions de dollars qui a été partagée avec les 9 pays et qui vraiment a servi comme une injection de financement pour des réponses qui étaient vraiment oubliées. Donc, ça a été une fois de plus très important et on est très content que le surf a choisi le Sahel et aussi la corne comme crise oubliée pour nous soutenir en mi-parcours.
Les fonds de cette année pour le Sahel étaient donc liés aux aspects de la sécurité alimentaire ou aux aspects de la sécurité tout court ?
Les deux. Une fois que le Sahel a été choisi pour ce financement, les pays, les équipes ont dû développer des propositions. Et là, comme je disais tout au début, c'était vraiment un travail d'équipe pour se mettre ensemble, se dire quels sont les besoins les plus urgents. Donc, si on a cet montant, comment on peut le mieux utiliser ? Donc, je pense que une des raisons pour laquelle le bailleur de fonds apprécie le surf, c'est pourquoi ils savent que derrière chaque disbursement, il y a vraiment un travail de prioritisation. Donc, les agents doivent vraiment se mettre d'accord entre eux pour décider quels sont les besoins prioritaires. Donc, on arrive vraiment à dépasser la logique mandat de chaque agence, mes intérêts en tant qu'agence, pour arriver à un intérêt d'équipe de pays. On peut être presque sûr, presque chaque fois qu'on utilise le surf, que ça va vraiment dans le sens des besoins prioritaires de, comme on dit, life-saving, de sauver les vies. Une fois qu'une proposition est faite, ça vient au secrétariat du surf et ça va être revu. Et donc, il y aura pas mal de questions qui vont être posées. Est-ce que cette proposition vraiment répond aux critères du surf ? Donc, je pense que cette idée d'un travail d'équipe, mais aussi avec ces plusieurs contrôles pour chaque proposition, chaque disbursement, c'est une des critères de succès aussi du fonds.
Dernière question. 2015, que souhaitez-vous voir côté surf pour votre région ?
Quelque part, je devrais dire, je n'ai pas envie de voir le surf. Je ne souhaiterais pas avoir besoin du surf, mais je sais déjà que ça ne va pas être le cas. Pourquoi ? On a déjà fait l'analyse des besoins pour le 2015 et malheureusement, on se retrouve dans une autre année de crise. La population en sécurité alimentaire est maintenant estimée à 18 millions. Donc, on a quelque part baissé. On était à 20 millions, on est à 18. On a toujours les 5 millions des enfants en malnutrition. Et avec l'impact des épidémies. Malheureusement, on voit une autre année de crise et on a vraiment peur de la baisse des intérêts des bailleurs de fonds. Donc, la crise Ebola a aussi quelque part détourné les financements qui ont été destinés pour le Sahel. Et donc, je pense que même si Ebola, peut-être, on arrivera à être assez financé, on va perdre de financement pour le Sahel. Donc, c'est fort probable qu'on va se trouver sous-financé la prochaine année. Malheureusement, on trouve qu'il y a encore un grand délai entre les alertes et la réponse. Et on a vu ça aussi à Ebola. L'alarme a été sonnée en mars. La vraie réponse a commencé en septembre-octobre. Et ça coûte toujours plus cher, une réponse tardive. Et on l'a expliqué, mais il y a des raisons, surtout des raisons politiques pour lesquelles on arrivera toujours à avoir des fonds une fois que la crise est vraiment très visible.
Et c'est avec Allegra Baiocchi que se referme cette édition d'Escale, consacrée cette semaine à l'utilisation des fonds d'urgence humanitaire pour lutter contre l'épidémie d'Ebola et faire face à la crise sahélienne. Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies, vous a été présenté cette semaine par Christina Silvero, avec la collaboration de Bettina Loiret, Florence Westergaard et Carlos Macias. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. We'll be right back.
Oui.